Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et bienvenue à vous si vous nous retrouvez. On est ensemble jusqu'à 20h avec le journal dans quelques secondes. Et à 19h20, entretien exceptionnel ce soir avec celui qui a fait trembler la République, l'ancien juge d'instruction Renaud Van Runbeck. Il sera notre invité alors qu'il sort en librairie un ouvrage sur ses 40 ans de carrière marqué par les plus grandes affaires Clearstream, Kerviel, Elf ou encore Karachi. Il nous racontera tout ça avec désormais une parole libre. Le journal d'abord avec Isabelle Millet. Il est 19h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Entre 15 et 20% des étudiants se déclarent en difficulté ou en grande difficulté. Ils souffrent de l'isolement, manque de relations sociales. Et c'est un vrai problème. C'est une souffrance pour tout le monde.
L'étudiant qui s'est défenestré ce week-end à Lyon est toujours entre la vie et la mort. Les responsables de l'université pointent l'extrême précarité de ces étudiants. Précarité liée à la crise du Covid.
Lille vient de détecter les premiers cas de variant britannique. Son voisin Roubaix organise depuis ce matin une vaste opération de dépistage. On sera sur place.
Des précisions sur la vaccination. On ne pourra pas s'inscrire sur l'application Tous Anti-Covid, mais on y trouvera les adresses des centres les plus proches de chez nous.
L'OMS va enfin pouvoir entamer sa visite en Chine, mais pas sûr que les experts aient accès aux informations qu'ils souhaitent, nous dira Didier François.
Aux États-Unis, la procédure d'impeachment contre Donald Trump est lancée. Les démocrates ont déposé l'acte d'accusation. Et puis, les victoires de la musique, on connaît les nommés. Benjamin Biolay, notamment, est présent dans trois catégories.
La météo avec Anissa qui n'est pas nommée, mais qui va nous annoncer un temps pluvieux, en tout cas humide. Pour demain, ma chère Anissa.
Oui, avec de nombreuses averses et le retour de la neige en plaine. Les températures, toujours bien froides le matin, connaissent une hausse sur la moitié nord demain après-midi. Tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est un drame qui illustre donc l'isolement des étudiants contraints par la situation sanitaire de travailler seuls dans des conditions souvent difficiles.
Le jeune homme qui s'est défenestré ce week-end à l'université de Lyon est toujours entre la vie et la mort. Il était étudiant en master de droit.
Et Jean-Luc Bougeon, c'est bien sûr le choc sur place.
Oui, effectivement, c'est le choc. Les étudiants ont réagi avec beaucoup d'émotion sur les réseaux sociaux. La présidence de l'université Lyon 3 aussi, elle qui devait annoncer aujourd'hui un plan pour lutter contre la précarité étudiante. Car si l'on ignore encore les raisons précises qui ont poussé le jeune homme à une telle extrémité, tout le monde imagine que la situation très précaire des étudiants en ce moment a joué un rôle avec cette crise du Covid qui empêche les cours en présentiel, qui ne permet pas non plus les petits boulots alimentaires et qui pousse à l'isolement. C'est une période terrible pour les étudiants, estime Éric Carpano, président de l'université Lyon 3.
Entre 15 et 20% des étudiants se déclarent en difficulté ou en grande difficulté. Ils souffrent de l'isolement, manque de relations sociales, difficulté de suivre les cours en distanciel. Et c'est un vrai problème. C'est une souffrance pour tout le monde. J'ai pas de réponse miracle, malheureusement. Si dans 15 jours, on est de nouveau confiné, on va être confronté de nouveau à cette situation et peut-être pire encore.
Voilà, vous entendez l'impuissance du président de Lyon 3. Alors, des mesures ont été annoncées quand même par le recteur de l'Académie de Lyon, notamment l'embauche de 2 ou 3 assistantes sociales supplémentaires, la mise en place de tuteurs ou d'étudiants référents dans les résidences du Crous. Mais cela apparaît bien dérisoire quand on sait que le campus lyonnais rassemble plus de 200 000 étudiants.
Jean-Luc Bougeon à Lyon pour Europe 1. À l'instant, la justice déboute la mairie Les Républicains de Cannes de son recours qu'elle avait intenté avec 3 autres municipalités contre le couvre-feu anticipé à 18h au lieu de 20h. Couvre-feu appliqué depuis le 1er janvier dans les Alpes-Maritimes et dont les élus dénonçaient les effets pervers.
2 nouveaux cas du variant anglais du coronavirus détectés cette fois à Lille, Isabelle, ce variant sera-t-il responsable d'un nouveau confinement en France? C'est toute la question.
Un couvre-feu pour l'instant suffit, c'est ce qu'a dit en tout cas ce matin Jean Castex devant les présidents de groupes parlementaires, même si le Premier ministre n'exclut pas un nouveau confinement, mais en dernier recours.
Oui, un confinement, c'est ce que les autorités veulent évidemment éviter à tout prix.
Et pour cela, certaines communes optent quant à elles pour une campagne de vaccination à grande échelle. C'est le cas notamment de la ville de Roubaix. 6 centres de dépistage.
Principal enjeu, détecter la présence éventuelle de ce variant anglais. L'opération a débuté ce matin. Maximilien Carlier, quel bilan pour cette première journée?
Eh bien, écoutez, pas de chiffres pour l'instant sur le nombre de dépistés, mais ça a démarré progressivement, début de matinée, fin de journée du monde, oui. Mais entre midi et 14h, on a vu des infirmiers se tourner les pouces. Là où je me trouve, salle Ouattremer, il y a eu un flux continu de personnes, parmi elles, Pascal, il attend son résultat.
Je suis à Roubaix pour quelques temps, moi j'arrive de Mayotte. Voilà, ça me rassure un peu de venir ici faire les tests pour confirmer que je l'ai pas, quoi.
L'Agence régionale de santé espère tester 10% de la population, soit environ 10 000 habitants, d'ici la fin de la semaine, mais pour beaucoup de Roubaisiens, le dépistage, c'est non.
Pour l'instant, je n'ai pas de symptômes.
Ça sert à rien. Je trouve pas l'intérêt. Le virus, il est là, il est là.
On doit porter des masques, on porte des masques.
Pour cet habitant, les gestes barrières suffisent. D'autres m'ont expliqué qu'ils voulaient se faire vacciner plutôt que d'avoir un écouvillon dans le nez. Philippe Frogel, généticien au CHU de Lille, lance, lui, un appel à la population.
Moi, ce que je leur dis, c'est venez, parce que si vous faites rien, que ça se passe mal, on sait ce qui va se passer. Dans 10 jours, 15 jours, on aura le couvre-feu à 18h, ce qui est vraiment pas très amusant et ça pourrait être pire.
Et ce dépistage massif a également pour objectif de rappeler aux habitants les gestes barrières, car il y a 3 mois, en pleine seconde vague, Roubaix avait connu le taux d'incidence le plus élevé en France, 1135 cas positifs au Covid pour 100 000 habitants.
Maximilien Carlier à Roubaix pour Europe 1. Quant à la campagne de vaccination qui s'accélère, vous êtes nombreux à vous poser des questions. Où et quand pourra-t-on s'inscrire si l'on est volontaire?
Le secrétaire d'État au numérique, Cédrico, était l'invité d'Europe 1 à la mi-journée dans La France bouge. Il en a profité pour faire le point sur cette application Tous Anti-Covid.
Application qui finalement, Clément Le Saffre, ne permettra pas de prendre rendez-vous.
Oui, c'était pourtant ce qu'avait annoncé Olivier Véran la semaine dernière à une prise de rendez-vous par téléphone, sur Internet et via Tous Anti-Covid, mais voilà, l'idée n'aboutira pas comme l'a annoncé Cédrico sur notre antenne.
Vous ne pourrez probablement pas prendre directement rendez-vous dans Tous Anti-Covid pour plein de raisons techniques, mais sera disponible dès jeudi la liste des centres de vaccination à côté de chez vous. Évidemment, il y a une ordre de priorité, donc vous ne pourrez vous faire vacciner que si vous répondez à cette ordre de priorité.
On aura donc toutes les informations dans l'application pour se faire vacciner, mais ça n'ira pas plus loin pour le rendez-vous. Il faudra passer par Internet ou par téléphone. Par ailleurs, Cédrico a confirmé l'intégration dans Tous Anti-Covid lors de la réouverture des restaurants. On n'a pas encore de date, d'un QR code à scanner à l'entrée. Si un client est testé positif, tous ceux qui étaient dans l'établissement à la même heure que lui seront ainsi averti par une notification. Ce sera obligatoire pour pouvoir entrer dans les établissements. Ce système restera quand même doublé par des cahiers de rappel traditionnels pour ceux qui n'ont pas de smartphone.
Une précision importante, signée Clément Le Saffre. Merci Clément. Et puis ça y est, le vaccin de Moderna est arrivé en France aujourd'hui. Les 50 000 premières doses qui vont être distribuées en priorité aux régions les plus touchées, le Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes et PACA.
Autre information, Pékin, ça y est, a finalement autorisé l'Organisation mondiale de la santé à venir enquêter en Chine sur les origines de l'épidémie. Une mission scientifique composée des 10 meilleurs experts mondiaux en matière d'épidémiologie et doit se rendre jeudi à Wuhan.
Wuhan, oui, une ville ultra sensible. Oh, c'est toujours dur à dire. On en parle avec notre spécialiste des questions internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Les autorités chinoises ont donc entrouvert la porte, mais elles entendent contrôler de très près les activités de ces scientifiques.
Oui, c'est ça. Disons qu'ils ont enfin réussi à franchir le tout premier obstacle qui était en fait d'arriver jusqu'en Chine. Et ils sont encore très loin de leur objectif, qui est de trouver les réponses scientifiques solides sur les origines du virus, sachant que du strict point de vue de l'enquête épidémiologique, ils ont quand même perdu un an, puisque c'est il y a 12 mois, jour pour jour, que les autorités de Pékin ont annoncé la mort, donc à Wuhan, du premier patient contaminé par la Covid. C'était le 11 janvier dernier. On ne connaît d'ailleurs toujours pas son identité. Mais entre-temps, la pandémie a fauché presque 2 millions de vies sur l'ensemble de la planète, sans que pour autant la bureaucratie communiste chinoise n'offre aux chercheurs un accès libre au foyer originel de la contamination. Bien au contraire, les représentants de Pékin à l'OMS ont négocié pied à pied toutes les conditions de séjour en Chine des 10 experts indépendants auxquels il est interdit de mener des investigations ou des prélèvements autonomes. Ils ne pourront travailler que sur les éléments que leur fourniront les scientifiques des structures officielles chinoises. Alors, ils les affirmeront, plus certainement les confirmeront, mais ils n'auront pas tout.
Mais qu'est-ce que la Chine cherche à cacher en réalité ?
Eh bien, effectivement, le problème, c'est que tout enquêteur de police judiciaire sait bien que pour avoir accès il faut avoir accès rapidement à une scène de crime pour en prélever les indices pertinents. C'est la même chose dans les recherches épidémiologiques. Donc, les obstacles qui sont dressés par la Chine au travail de l'OMS peuvent être considérés comme une stratégie qui vise à faire disparaître les indices et donc créer de la suspicion. Mais en fait, c'est parce que le Parti communiste chinois se moque royalement de la vérité scientifique. Ce qu'il veut, c'est contrôler absolument toute communication sur l'épidémie et surtout mettre en avant les succès obtenus dans sa lutte contre la propagation du virus. Donc toute tentative d'investigation indépendante sur les origines de cette maladie a toujours été réprimée de façon la plus brutale. Vous vous souvenez peut-être de ce médecin de Wuhan qui avait lancé l'alerte au tout début de l'épidémie et qui avait alors été arrêté pour circulation de fausses rumeurs. Pour dire si ça a circulé, la fausse rumeur. Eh bien, une autre lanceuse d'alerte vient d'être condamnée à 4 années de prison pour avoir mis en doute le nombre de morts dans les bilans officiels, qui est toujours de 4634 décès depuis la mi-mai. Pour une population d'un milliard et demi d'habitants, ça ne tient pas franchement debout, mais c'est la vérité du parti.
Merci à Didier Leuil de Didier François. C'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Europe 1, Julien Bugier.
Et vous restez avec nous, le journal continue dans quelques secondes. On s'intéressera au lancement de la procédure d'impeachment de Donald Trump.
Et puis de la musique. Allez, envers et contre tout.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et on part désormais aux États-Unis où les choses s'accélèrent. Les démocrates viennent de présenter l'acte d'accusation contre Donald Trump.
Et on vous retrouve Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1. C'est donc le début, hein, Alexis, de la procédure d'impeachment.
Oui, l'acte d'accusation a été déposé ce matin à la Chambre des représentants. 4 pages dans lesquelles Donald Trump est accusé d'incitation à la violence contre le gouvernement des États-Unis. Le président a gravement mis en danger la sécurité du pays, de ses institutions et a menacé l'intégrité du système démocratique, dit le texte, qui revient sur le discours de Donald Trump devant ses partisans le 6 janvier. Le président avait répété avoir remporté la présidentielle et déclaré « si vous ne vous battez pas comme des diables, vous n'aurez plus de pays ». L'acte d'accusation souligne également les tentatives de Donald Trump pour renverser les résultats des élections et cite l'appel au secrétaire d'État de Géorgie pour trouver les milliers de voix manquantes. 2 sanctions sont demandées, la révocation de Donald Trump et la disqualification pour exercer tout futur mandat. La Chambre des représentants va voter cette semaine cet impeachment, mais des questions se posent pour la suite. Le procès au Sénat ne pourra pas se tenir avant le 20 janvier, c'est-à-dire le jour de l'investiture de Joe Biden. Les démocrates pourraient donc ne pas transmettre immédiatement l'acte d'accusation à la Chambre haute pour ne pas paralyser le début de mandat de Joe Biden par le procès de son prédécesseur.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Et puis ça y est Isabelle, on connaît les nommés aux Victoires de la musique.
Et ce sera la 36e édition après une année évidemment dévastatrice pour le secteur de la musique. Alors la cérémonie se tiendra le 12 février dans un contexte forcément particulier, Angèle Châtelier.
Oui, d'ailleurs, à un mois de la cérémonie, rien n'est encore fixé sur la façon dont elle se déroulera. Le président des Victoires de la Musique, Romain Vivien, réfléchit à plusieurs alternatives.
On prendra probablement les décisions au dernier moment. On ne peut pas annoncer encore s'il y aura un public ou pas, mais ça semble malheureusement très compromis. Et puis, on est en train de travailler sur un protocole extrêmement strict. Imaginez de faire tester les gens, voire même d'en faire vacciner certains, et d'essayer de faire ça dans un cadre le plus... confortable pour les artistes et sécurisant pour tout le monde.
Et faute de concerts, en 2020, les catégories révélations scène et concerts de l'année sont supprimées. À la place, un changement pour les révélations qui se distinguent entre les hommes et les femmes. Parmi les nommés, on peut citer Iseult ou encore Hervé.
C'est énorme parce qu'il y a beaucoup de chanteurs. Hein. Il y a beaucoup qui chantent bien, beaucoup qui écrivent bien, qui produisent bien. Tout le monde est fier, la famille, tout le monde. Enfin voilà, ça a du sens.
Mais là, il s'agit des révélations. Comme chaque année, les gros vendeurs de disques sont aussi mis à l'honneur. Benjamin Biolay, nommé dans 3 catégories. Julien Doré, Camélia Jordana. Et puis 2 artistes qui reviennent après avoir gagné l'année dernière. Pomme et Suzanne, qui concourent aux côtés d'Aya Nakamura pour être l'artiste féminine de l'année. Dans la Enfin, dernière nouveauté, un prix d'honneur dont il ne peut y avoir qu'un gagnant. Le titre le plus streamé qui revient cette année au duo de rappeurs Gradur et Eus l'Enfoiré appelé Ne reviens pas.
Et on suivra ça donc le 12 février, Angèle Châtelier.
La folie dans le studio, n'est-ce pas Nissa?
Ouais, ça a été le tube de l'été ça.
Bah oui, bien sûr, quand on a des enfants en plus, on voit ça dans les oreilles.
Ça,
merci Isabelle, on vous retrouve demain à partir de 18h. Un coup d'œil au temps, avec de la neige et de la pluie pour demain, ça s'annonce pas terrible.
Ouais, c'est le cocktail hivernal qui est de retour, que nous apporte la perturbation demain sur toutes les régions. Alors ça va être très simple, sur toutes les régions il ne fait pas beau, sauf les Alpes, les Pyrénées, le bassin méditerranéen et la Corse. Au bord de la Manche et de l'Atlantique, le vent d'ouest souffle et va s'engouffrer dans l'après-midi sur la moitié nord du pays. Dans l'est, de l'Alsace à l'Auvergne, il neige toute la journée avec, attention, plusieurs centimètres de neige attendus en plaine. Et puis, des verglas routiers, soyez prudents, surtout sur les routes secondaires. Les températures matinales, moins 9 à 9 degrés, c'est dans le sud que les gelées seront les plus marquées.
Merci Anissa, même chose, passez une belle soirée. On se retrouve demain à partir de 18h. Dans quelques secondes, entretien ne pas rater avec l'ancien juge Renaud Van Runbeck. D'abord la carte blanche, signé ce soir Philippe Besson.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir mon cher Philippe.
Bonsoir Julien.
Alors ce soir pour votre carte blanche, vous vous intéressez à l'état du Parti Socialiste. Tiens, tiens, 15 mois de l'élection présidentielle et il semblerait que les nouvelles ne soient pas très bonnes.
Non, bah c'est bien simple. Ce week-end, le journal Le Monde annonçait même un schisme sous le titre PS, Olivier Faure coupe les ponts avec François Hollande. Avec vous-même, Julien, vous êtes saisi d'effroi.
Absolument.
Je m'en doutais. Alors pour que nos auditeurs comprennent, Olivier Faure, c'est le type qui tient la boutique depuis bientôt 3 ans avec le succès que chacun a pu constater. Et François Hollande, c'est l'ancien patron de la boutique qui était tellement rejeté par les Français il y a 4 ans qu'il n'a même pas pu se présenter à la présidentielle. Un choc de titan.
Voilà,
donc.
Je reconnais bien là votre ironie habituelle, mais d'abord, est-on certain que la rupture est consommée?
Ah bah, y a quand même des signes qui ne trompent pas. Présents tous les deux à Jarnac vendredi dernier pour l'hommage à François Mitterrand, ils ne se sont pas adressé une seule fois la parole. Et il semblerait que depuis 2 ans, de toute façon, les deux hommes n'échangent plus un mot. Reconnaissez que ce n'est pas le signe d'une passion dévorante.
Mais quelle est la raison de leur brouille ?
Mais en fait, Olivier Faure ne supporte plus les prises de parole de François Hollande à tout bout de champ. Il faut dire que l'ancien président, depuis quelques mois, occupe le terrain médiatique. Pas une semaine sans qu'il n'intervienne à la télé ou à la radio. Et sur tous les sujets, il n'y a guère que la météo qu'il n'a pas présentée. Du coup, cette surabondance laisse peu de place aux autres ténors socialistes et consomme même leur temps de parole. Mais surtout, surtout, à chaque fois qu'il s'exprime, François Hollande dit tout le mal qu'il pense de la stratégie de son successeur. Ainsi, dans Sud-Ouest, jeudi dernier, où il a pointé, sur un ton très acerbe, l'absence de projet, le manque de leadership, le défaut de dynamique de la force centrale qui est supposée être le PS, n'en jetez plus, la cour est pleine.
Et alors, ça n'est pas vrai ça? Il se trompe, l'ancien chef de l'État?
Pas entièrement, mais Olivier Faure, de son côté, nourrit aussi quelques griefs. Il rappelle que François Hollande, quand même, a laissé un parti en ruine, qui avait enchaîné les déroutes électorales, totalement divisé entre les tenants d'une ligne sociale libérale, et on s'en souvient, les frondeurs, et brouillé avec les Verts. Par conséquent, dit-il, pour les leçons de leadership et de rassemblement, il puise ailleurs son inspiration, ambiance. Il est surtout excédé de constater que François Hollande n'a pas raccroché, s'imagine toujours en recours et refuse de comprendre que son ombre tutélaire empêche une nouvelle génération d'émerger et de nouvelles alliances de se concrétiser.
C'est vrai, mais il a quand même été président de la République.
Absolument.
Alors, qui a raison dans cette querelle selon vous, Philippe ?
Les deux, mon général. Le PS a évidemment besoin de se reconstruire avec un projet refondé qui agrège les préoccupations écolo et qui réponde aux urgences sociales. Il a besoin aussi de discuter avec tous les autres acteurs de la gauche pour tenter de parvenir à une candidature unique. Olivier Faure a également raison de vouloir proposer de nouveaux visages, notamment en misant sur des élus de terrain. Mais une présidentielle, ça suppose une incarnation, une personnalité, quelqu'un qui est une envergure. Et à part François Hollande, vous le disiez, un imbé de son statut, on a du mal à citer des gens qu'on envisagerait dans le rôle.
Voilà, on y vient finalement, voilà. Philippe. Alors du coup, comment cela va-t-il se régler ?
Le pari d'Olivier Faure, c'est de faire émerger une figure incontestable qui incarne tout à la fois le progressisme, l'écologie, le renouvellement, la connaissance des enjeux locaux au plus près des citoyens et qui ne soit pas un repoussoir pour toutes les autres composantes de la gauche. Et il est convaincu de l'avoir déniché avec Anne Hidalgo. Si cette dernière, qui d'ailleurs affiche, vous l'avez vu, de plus en plus ses ambitions, parvient à s'imposer dans les enquêtes d'opinion, il pourrait avoir trouvé la martingale. Mais ce n'est pas encore sûr que son pari fonctionne, c'est surtout pas sûr non plus que François Hollande se laisse griller la politesse. Si vous voulez mon avis, le feuilleton est loin d'être terminé.
Et vous serez là pour nous faire vivre ce feuilleton passionnant, avec beaucoup d'ironie comme toujours. Merci Philippe Besson.
Merci
pour cette
Julien.
Carte blanche du lundi.
Europe 1, Julien Bugier.
19h18, vous restez avec nous dans quelques secondes. Un invité exceptionnel pour un entretien vérité avec l'ancien juge Renaud Van Runbeck, celui qui a instruit les plus grands scandales politico-financiers de la République. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec ce soir un invité exceptionnel en fil rouge dans le débat du Club des Idées jusqu'à 20h, il a été de toutes les grandes affaires politico-financières de ces 40 dernières années. Robert Boulin, Elf, Karachi, Clearstream, Kerviel, Cahuzac, ancien juge d'instruction au pôle financier. Bonsoir Renaud Van Runbeck.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct pour raconter votre vérité que vous confiez dans un livre absolument passionnant intitulé « Mémoire d'un juge trop indépendant », c'est aux éditions Talendier. Pourquoi dites-vous d'ailleurs dans ce titre « trop indépendant » ?
C'est pas moi qui l'ai dit. Quand j'ai commencé ma carrière, si j'ose dire, et que j'ai commencé à avoir des grosses affaires, notamment l'affaire Boulin, ce sont mes supérieurs hiérarchiques qui ont considéré que j'étais trop indépendant. J'ai découvert ces notations un peu perfides. Je les ai découvertes beaucoup plus tard quand j'étais poursuivi dans l'affaire Clearstream, où là j'ai eu accès à l'intégralité de mon dossier. Et en fait, il disait, il a du caractère, il va falloir, il est trop indépendant. Il faudra quand même qu'il mette en gros un peu d'eau dans son vin s'il veut faire un excellent magistrat.
Alors vous l'écrivez cette phrase dans votre livre. Il témoigne de hautes vertus morales, en particulier d'une indépendance affirmée. C'est ce trait de caractère que je redoute pour lui, dit votre supérieur de l'époque, car il peut le conduire à des positions extrêmes ou excessives.
Absolument.
Ça n'est pas une qualité d'être indépendant quand on est juge d'instruction ?
À l'époque, ça l'était peut-être pas dans la magistrature, à un certain niveau en tout cas, puisque j'ai eu deux notations comme ça, par deux supérieurs hiérarchiques à quelques années d'intervalle, qui m'ont dit la même chose. En tant que juge et en tant que parquetier, je l'ai été également au début.
Alors, on va y revenir sur cette indépendance qui vous caractérise, Renaud Van Runbeck. D'abord, vous confessez dans ce livre que l'affaire qui vous a le plus marqué, c'est l'affaire Boulin. C'était en 1979, le ministre du Travail de Valéry Giscard d'Estaing est mis en cause dans une affaire de montage immobilier et se suicide en laissant une lettre où il vous met directement en cause et il parle d'un juge inexpérimenté, vindicatif et haineux. Et à l'époque, voici comment les médias en parlent.
En quelques heures, le jeune Renaud Van Runbeck est devenu le magistrat le plus célèbre
Chambre de France. Ce fils d'industriel n'a rien du révolutionnaire ni du juge rouge que l'on s'attend à rencontrer après les accusations posthumes de M. Boulin. Au palais de Caen, on considère le jeune magistrat comme un juge intègre, sévère et méticuleux à l'extrême, mais ne se laissant ni influencer ni impressionner par qui que ce soit.
Vous aviez 27 ans à l'époque.
Oui.
27 ans et vous veniez d'arriver en poste à Caen depuis seulement 2 ans. Vous étiez prêt à ça ?
Non. Non, mais je savais qu'en enquêtant sur les comptes d'un ministre, que d'ailleurs je m'apprêtais à convoquer, d'où la raison, probablement, je n'en sais rien aujourd'hui, du suicide tel que je l'ai vécu à l'époque. Mmh. Oui, je sentais que je faisais quelque chose qui était inhabituel, en tout cas dans la magistrature, à l'époque, puisque jusqu'alors, les dossiers financiers ne remontaient jamais à l'échelon supérieur.
Oui.
Les petites mains, ok, on sait faire, mais au-delà, on n'y allait pas. Donc, ce que je faisais était anormal, voilà, pour l'époque. Et je m'attendais à des réactions, mais pas évidemment la mort du ministre, évidemment.
Ça a été le début d'une longue série. Parce qu'après, vous avez instruit un certain nombre de dossiers sensibles comme celui-ci. Vous dites, à l'époque, et vous l'écrivez dans le livre, « Ma première grande affaire a été une épreuve. Aucun juge n'est prêt à subir une telle violence. » D'où ma question, Renaud Van Renbeek. Est-ce que vous avez eu des regrets provoqués, pardon de le dire comme ça, même indirectement, la mort de quelqu'un ? Ça doit marquer, ça, dans une carrière.
Bien sûr. Lorsqu'il est mort, ça m'a interpellé très, très fortement. Et je me suis posé des questions. Je me suis dit, est-ce que t'es pas allé trop loin ? Est-ce que tu aurais dû remonter comme ça ? Et puis, la raison l'a emporté. Je pouvais pas étouffer un dossier. C'est pas dans ma nature. Oui. Sinon, je me reniais complètement par rapport à mes valeurs, par rapport à la haute idée que je me suis toujours faite de la justice.
Est-ce que cet événement vous a changé et a modifié peut-être votre manière de mener des enquêtes et des instructions ?
Non. Ça aurait pu. Mais la situation s'est vite retournée et je dirais que ça m'a, au contraire, ça m'a vacciné en quelque sorte pour toutes les épreuves que je vais connaître par la suite.
Je vous pose la question, Renaud Van Renbeek, parce que c'est un vieux débat qui rebondit perpétuellement. L'idée que les juges d'instruction auraient trop de pouvoir et mèneraient parfois leur instruction à charge en fonction de leur intuition, c'est ce qu'on avait beaucoup dit par exemple à l'époque, c'est un autre dossier, au cas dans le dossier Outreau. Est-ce que vous seriez, vous, favorable à la suppression du juge d'instruction, comme on l'entend beaucoup dans la bouche des politiques ?
Alors, pourquoi pas ? Mais à condition de donner l'indépendance au procureur. Parce que si vous supprimez le juge d'instruction aujourd'hui, qui est indépendant, et que vous donnez la main au procureur, qui lui n'a pas les mêmes garanties statutaires, c'est un recul des libertés. Les pays qui ont supprimé le juge d'instruction, par exemple l'Italie, ou un autre exemple que je connais bien, Genève, les procureurs ont récupéré les pouvoirs, mais ils sont indépendants du pouvoir politique. Et le problème en France, c'est que les politiques n'ont jamais voulu donner l'indépendance au parquet. Alors quand ils sont dans l'opposition, ils se plaignent de l'action du parquet en disant ils agissent aux ordres, ils sont sous la tutelle du pouvoir, très bien. Mais les mêmes, quand ils sont au pouvoir, ils disent « Ah ben non, il faut maintenir le lien entre le ministre et les parquets. » Bon, donc, voyez la contradiction.
Vous avez déjà été menacé de mort ?
Une fois. Une fois, j'ai eu des gardes du corps pendant 3 semaines. Je l'ai assez mal vécu parce que j'aime bien marcher librement, me promener. Et donc j'ai mis fin assez vite. D'ailleurs, les menaces se sont... Vous voyez, je suis encore là aujourd'hui, elles ne se sont pas concrétisées.
Vous aviez eu peur à l'époque ?
Non, pas vraiment peur, mais mon entourage avait peur. Et puis les policiers m'avaient dit, je leur avais dit, bon, c'est qu'une menace comme ça, bon... Il m'a dit « Ah, attendez, ils ont réservé une chambre dans un hôtel d'où théoriquement ils doivent vous abattre, etc. » Bon, donc ils m'ont dit « Prenez ça au sérieux. » Donc je l'ai pris au sérieux, puis après, j'ai toujours pensé que c'était de l'intox, mais bon, voilà, ça ne m'aurait pas changé ma ligne de toute façon.
Bon, et vous êtes toujours là, et
je suis toujours
c'est
là.
Un plaisir de vous recevoir. Le juge Van Renbeek qui est avec nous pour un entretien jusqu'à 20h. On se retrouve juste après la pause, on évoquera les autres grands dossiers qui ont marqué votre carrière. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec ce soir un invité exceptionnel en fil rouge dans le débat du Club des Idées, le juge, ancien juge, Renaud Van Renbeek, qui écrit un livre absolument passionnant sur sa carrière intitulé « Mémoire d'un juge trop indépendant » aux éditions Talendi. Alors, on apprend également dans ce livre, Renaud Van Renbeek, avant de revenir aux affaires qui ont marqué votre carrière, que vous avez choisi la magistrature contre votre père, qui détestait la profession. Page 45, vous le citez, les magistrats qui ont condamné pendant la guerre les résistants sont les mêmes que ceux qui ont jugé les collaborateurs à la libération. Ce sont des lâches. Il n'aimait pas le métier que vous aviez choisi.
Bah, on peut le comprendre. Parce que tous les gens qui ont fait de la résistance pendant la guerre et qui retrouvent les magistrats, les mêmes, à la sortie, qui condamnent les collabos, il avait raison.
Mais
que
vous lui avez répondu, vous ?
Je n'ai rien répondu parce que, vous savez, les pères dans cette génération-là étaient des pères qui avaient... Mon père avait de l'autorité. C'était une façon de me dire « Bon, bah, c'est bien ce que tu choisis, mais va falloir... » Et je pense qu'il m'a... En fait, il m'a donné une force qui m'a servi après. Parce que quand vous heurtez comme ça au dictat du père et que vous résistez quelque part, quand je me suis retrouvé face à des hommes politiques ou même la hiérarchie qui ne m'a pas toujours soutenu dans ce corps, ça me paraissait facile, vous voyez.
Oui.
Je m'étais heurté à l'autorité, oui. J'étais passé, j'avais mes idéaux que j'ai gardés et qui m'ont porté et qui m'ont permis d'avancer.
Alors, il y a une autre affaire sensible que vous avez instruite, Renaud Van Renbeek, c'est l'affaire Urba, de financement occulte du Parti Socialiste, via les commissions que versaient à l'époque des entreprises qui obtenaient des marchés publics. Bref, magouille sous le chapeau. Et à l'époque, vous visez un certain Henri Emmanuelli, qui est président de l'Assemblée nationale et premier secrétaire du Parti Socialiste, et qui dit ceci à propos de vous.
Je tiens à dire avec force que je ne formule pour ma part aucune accusation contre l'institution judiciaire ou contre la justice. Je souhaite seulement qu'elle ne soit pas utilisée à des fins politiques lesquelles sont étrangères à sa mission. En effet, il est clair qu'à travers moi, il s'agit d'inculper le Parti Socialiste et lui seul parmi toutes les formations politiques.
Voilà, Henri Emmanuelli qui est trésorier à l'époque et pas encore premier secrétaire, trésorier du Parti Socialiste. Et c'est vous qui prenez la décision de perquisitionner le siège du parti. C'est une première, jamais un parti politique n'a été perquisitionné. Et vous racontez à l'époque que personne, même les policiers présents, ne savent pas où ils vont perquisitionner. Vous aviez gardé le secret jusqu'à la dernière seconde.
Total. Total, parce que... Sinon, je n'ai pas l'effet de surprise, parce que le ministre de l'Intérieur est socialiste. Les policiers, si je les informe, ils vont devoir informer leur hiérarchie. Le ministre de l'Intérieur le saura avant moi. Le parti le saura. C'est du moins ce que je pense.
Oui.
Et même chose vis-à-vis du parquet et des procureurs. Je la vise qu'à la dernière seconde par un fax à 3h du matin en me disant, de toute façon, ils ne le liront pas.
Mais là, vous êtes seul contre tous, en vérité. Vous êtes...
Oui, c'est une... je ne suis pas tout seul parce que j'appartiens à une chambre d'instruction. On est trois.
Oui.
Donc, j'ai agi avec l'aval de mes deux collègues qui savent. Donc, c'est pour ça qu'Henri Emmanuelli, il parle de l'institution judiciaire. Vous avez vu d'ailleurs que le discours politique n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Hein.
Oui, c'est-à-dire
Dès que la justice bouge un peu, on critique la justice. On est dans un pays, on ne sait pas ce que c'est que le respect de la justice. Bah, regardez les affaires récentes qu'il y a eu dans la... Il y a eu l'affaire... vous avez eu l'affaire, comment dire... de François Fillon, du Front National,
La France Insoumise,
pardon. et si vous voulez, je ne porte pas de jugement sur le fond. Je dis simplement qu'à chaque fois, c'est la justice qui se retrouve en accusation.
Alors Henri Emmanuelli sera finalement condamné en 93 et à l'époque, l'histoire se répète un peu par rapport à ce qu'on disait avec Boulin, parce que tout le monde vous tombe dessus. La droite y compris. Nicolas Sarkozy dit par exemple, il souffle un vent mauvais sur notre démocratie. Ça, c'est fort de café quand même. C'est-à-dire que l'ensemble de la classe politique fait bloc contre le juge que vous êtes et contre l'institution judiciaire que vous évoquez.
Oui. Parce qu'ils ne trouvent pas normal que la justice aille voir dans leurs affaires.
Dans l'arrière-boutique,
ils se croient au-dessus des lois. Et je crois que s'il y a eu un changement de fait... à travers toutes ces dizaines, depuis cette époque, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne sont plus au-dessus des lois. Et c'est fondamental pour la démocratie et pour la confiance que les citoyens peuvent avoir.
Vous dites aujourd'hui, le monde politique, il est plus propre qu'il l'était à l'époque ?
Il y a eu des financements, parce qu'à l'époque, tout le financement, la plupart des financements de tous les partis étaient complètement illégaux.
Oui.
Parce qu'il n'y avait pas de financement public. D'ailleurs, quand ils ont créé le financement public, ils ont dit, oh là là, à l'avenir... Il va falloir être très sévère pour ceux qui sortent des clous.
L'affaire Clearstream, c'est votre plus grand regret, Renaud Van Renbeek ?
Oui. Oui, oui. Avec le recul, évidemment, j'aurais pas dû. J'ai fait preuve là-dedans dans cette affaire un peu de naïveté.
C'est la fameuse affaire, on le rappelle, des faux listings, hein, dont le nom de Nicolas Sarkozy était ressorti avec cet indicateur qui vient de EADS, qui est un haut dirigeant du groupe et qui vous donne un listing avec des noms supposés de personnalités qui ont des comptes à l'étranger.
Oui,
et tout était faux.
Tout n'était pas faux.
En partie. En tout cas, le nom de Nicolas Sarkozy était
faux. Il y avait un vrai fichier et quelques noms faux dessus. Et ces informations me sont communiquées par quelqu'un qui m'est présenté comme le numéro 2 de ADS. Je ne pouvais pas penser une seconde à l'époque que ce fichier était falsifié, vu la personne qui voulait me le communiquer. Et je pouvais comprendre, qu'on peut le comprendre, que ce monsieur, vu les responsabilités qu'il avait, ne voulait pas apparaître. Mais il a quand même tenu à se présenter à moi, à se faire connaître.
Donc ça vous semblait crédible comme information.
Mais tout à fait.
Et vous dites
au départ,
dans le livre, j'ai sans doute fait preuve, c'est le moins qu'on puisse dire, de naïveté et de légèreté. Est-ce que vous vous en êtes voulu après
Bien sûr. Quand j'ai découvert,
mais bien sûr, que c'était une manipulation politique.
Oui, mais j'ai regretté, mais en prouvant que c'était faux. C'est-à-dire que dès que j'ai eu ces informations qui apparaissaient crédibles, j'ai fait des vérifications et j'ai prouvé qu'elles étaient fausses.
Oui.
À partir de ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je me suis fait embarquer dans cette histoire ? J'ai jeté le truc à la poubelle. Je me suis désintéressé de cette piste qui était une fausse piste et je m'en suis plus occupé du tout.
Ça vous a empêché de dormir pendant un bon bout de temps ?
Alors, ce qui m'a empêché de dormir, c'est le problème de la confidentialité et la loyauté que j'avais. C'est-à-dire que quand j'accepte de rencontrer à sa demande et sur son insistance ce monsieur, pour avoir des renseignements qui sont clés dans l'affaire des frégates, dans laquelle on m'oppose le secret défense, dans laquelle il y a des centaines de millions qui sont partis, dans laquelle il y a un officier à Taïwan qui a été assassiné, j'ai reçu sa veuve...
Ouais.
Dans lequel la France avait le risque de se voir condamnée à rembourser 500 millions de dollars, ce qui a eu lieu par la suite. Donc c'est tout ça qui me pousse à écouter cette voix et à essayer de savoir ce qu'il y a dans ce fichier. Heureusement que j'ai été prudent, c'est-à-dire que je n'ai rien fait si ce n'est de vérifier l'authenticité des comptes, et ceux qui pouvaient me concerner. Et j'ai prouvé qu'ils étaient faux. Donc ceux qui après ont essayé de me faire croire que j'avais ourdi un complot, que j'étais de mèche avec Gergorin, Monsieur Gergorin, etc. Bon, ça tenait pas la route deux secondes. C'est comme les accusations de Robert Boulin qui me traite de haineux de la société. On tombe toujours dans des aberrations.
On va continuer à défiler les affaires célèbres que vous avez traitées, Renaud Van Renbeek. À tout de suite avec notre invité jusqu'à 20h, 19h40.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, avec ce soir notre invité fil rouge exceptionnel dans le débat du Club des idées, l'ancien juge Renaud Van Renbeek, qui publie un livre passionnant intitulé « Mémoire d'un juge trop indépendant » aux éditions Talendier. Alors, il y a une affaire, Renaud Van Renbeek, très différente, sur laquelle vous revenez longuement dans votre ouvrage, c'est l'affaire Caroline Dickinson, du nom de cette collégienne anglaise qui s'est retrouvée étouffée après avoir été violée en 96 dans une auberge de jeunesse près de Saint-Malo. Et très vite, l'affaire va prendre un incroyable tournant médiatique en France et en Grande-Bretagne, avec une résonance toute particulière. Et pour la première fois, on voit arriver l'utilisation de l'ADN. Les gendarmes vont d'ailleurs tester tout un village. Je vous propose d'écouter un court extrait à l'époque de l'avocat de la famille Dickinson.
Je ne peux pas imaginer une enquête mieux menée que celle qui est menée depuis un an, depuis que M. Van Renbeek a été chargé par la cour d'appel de Rennes de prendre la succession du magistrat de Saint-Malo. C'est exactement l'enquête que la famille souhaitait.
Voilà, quel compliment.
Ça change des discours des politiques que vous m'avez sortis tout à l'heure.
Alors, ce qui est passionnant dans le récit que vous faites de cette affaire, c'est une affaire criminelle, sordide, qui change des autres affaires politico-judiciaires que vous avez été amené à instruire. Les pistes vont vous mener à un tueur qui rôdait autour des auberges de jeunesse. Vous identifiez un homme qui, deux ans plus tôt, avait été interpellé pour un comportement suspect en Indre-et-Loire. Il s'appelle Francisco Arce Montes. Et puis, ça débouche sur rien. Et puis, début 2001, votre remplaçant dit ce nom à une journaliste anglaise du Sunday Times qui titre alors avec son nom. Et un policier américain, c'est incroyable, de l'immigration, va tomber sur le journal alors qu'il est en vacances en Angleterre. De retour chez lui aux États-Unis à Détroit, il va découvrir que ce monsieur a été arrêté à Miami alors qu'il agressait une adolescente dans une auberge de jeunesse. Incroyable coup de chance, c'est lui le coupable.
Oui, mais vous savez, c'est comme au football, quand vous marquez un but, c'est parce que l'équipe est bien structurée, elle a bien travaillé, etc. Bon, elle peut aussi ne jamais marquer. En l'occurrence, pourquoi est-ce que mon collègue qui va me succéder lâche le nom d'Arce Montes ? Parce que dans le fichier, moi j'ai sélectionné 3000 personnes à peu près, sur différents critères, des personnes connues pour viol, qui avaient fréquenté la région, etc., qui avaient fréquenté les auberges de jeunesse. Et dans ces 3000, quand je pars, au bout de 4 ans, et que je laisse mon successeur, je lui dis, voilà, il y a une centaine, on en a trouvé 2900, il en reste 100, et c'est un peu comme l'entonnoir, on espère jusqu'au bout qu'il est dans le fichier. Et Arsène Montes était dedans, et c'était le dernier, ce qu'on appelait les rouges foncés. Parce que les enquêteurs, les gendarmes, ça, ils sont très organisés. Ils classaient les verts, les oranges, les rouges. Alors les rouges, c'était les plus chauds. Et les rouges foncés, c'était le dernier rouge foncé qu'on n'arrivait pas à trouver. Et c'est pour ça que quand mon collègue va en Angleterre, il est interviewé par un journal anglais. Il dit, il nous reste un suspect, c'est Arsène Montes. Et il était dans le fichier, voilà, il était dans les 3000.
Vous avez réussi finalement, directement, mais votre successeur, grâce à votre enquête, à l'interpeller. Sacrée victoire, j'imagine, au bout de l'histoire.
Jusqu'au bout, je pensais qu'on était passé à côté. Je me suis... En même temps, on se dit qu'il faut attendre que les 3000 soient testés pour avoir un résultat négatif. Mais plus vous avancez, plus vous êtes désespéré, en quelque sorte. Alors qu'en réalité, je l'avais dès le début dans le fichier.
On revient à la politique, si vous le voulez bien, Renaud Van Runbeek. Est-il vrai, comme on le dit partout, que Éric Dupond-Moretti vous a proposé de faire partie de son cabinet au ministère de la Justice?
Oui.
Et pourquoi vous avez refusé?
Parce que, en ce qui me concerne, je trouve que ce n'était pas le bon timing. C'est-à-dire que je ne sens pas, du côté du pouvoir politique actuel, comme les autres pouvoirs politiques, une véritable volonté de donner son indépendance à la justice, de faire des grandes réformes. Je ne vois d'ailleurs pas comment des grandes réformes comme celle-là pourraient être engagées en fin de mandat.
C'est quoi la grande réforme nécessaire aujourd'hui ?
L'indépendance du parquet.
Oui. C'est intéressant ce que vous dites, l'indépendance du parquet. Parce qu'aujourd'hui, les pressions politiques sont trop fortes pour pouvoir faire le boulot en toute indépendance. Et on revient là au titre de votre livre, trop indépendant.
Mais je crois que, en fait, les procureurs ont acquis une certaine indépendance. En fait, depuis tous ces dossiers, où il y a eu un passage au forceps. Bon, mais rien n'est réglé. C'est-à-dire que leur statut n'a pas changé. Demain, si vous avez un pouvoir un peu autoritaire, il a toujours le pouvoir de nommer les procureurs qu'il veut. Il y a une hiérarchie au parquet. Et les parquets ont de plus en plus de pouvoir. Donc,
mais vous avez déjà, vous, reçu des coups de fil de dirigeants politiques?
Non.
Pour vous dire, Renaud, il va falloir traiter ça autrement?
Non, ils n'ont pas osé. Vous savez, l'effet boomerang, ça existe aussi.
Et c'est plus dur d'être un bon juge sous un gouvernement de droite ou un gouvernement de gauche?
C'est pareil.
Les pressions sont les mêmes?
Les critiques sont les mêmes. Les critiques, les tentatives de déstabilisation, les déclarations dans la presse, là où on se pose en victime, où on dit qu'on est victime d'un juge haineux, etc. Tout ça, c'est gauche comme droite, j'ai connu exactement la même situation.
Bien. L'autre grand combat de votre carrière, pour terminer, c'est contre les paradis fiscaux. C'est l'appel de Genève que vous lancez notamment en 96 avec d'autres magistrats. Et vous dites, c'est une histoire sans fin, cette affaire-là. Parce que quand on assainit nos relations avec un paradis fiscal, il y en a un autre qui pousse. Hier, c'était le Panama, c'était la Suisse. Aujourd'hui, c'est Dubaï, qui est une véritable machine à laver l'argent sale, hyper sécurisée. C'est un combat perdu d'avance?
Mais aucun combat n'est perdu d'avance. Aujourd'hui, il est perdu. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant d'argent sale dans les paradis fiscaux. En même temps, sans avoir de discours démagogique, mais c'est une réalité, vous avez une misère qui se développe de plus en plus, vous avez des déficits dans les États, etc. Et il y a énormément d'argent qui dort, auquel on ne touche pas, qui circule dans cette planète. Et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une véritable volonté politique pour récupérer, confisquer cet argent et le récupérer au profit des États. Ça, c'est quelque chose que je pense que les nouvelles générations... C'est un défi qu'il faudra relever, comme celui de la pollution, c'est exactement pareil. Oui, il y a de la pollution, mais bon, on fait avec. Là, il y a de l'argent sale, on ne peut pas s'en passer, on fait avec. Non, il n'y a pas de fatalité.
J'ai une dernière question à vous poser, Renaud Van Runbeek, d'actualité, si l'on peut dire. C'est l'affaire des fadettes, dans l'affaire Big Malion, où le parquet financier a enquêté sur les coups de fil d'avocats, de juges, dont vous-même, je crois, pour identifier l'auteur d'une fuite au bénéfice de Nicolas Sarkozy. Ils ont outrepassé leurs droits, les règles
Non, parce que la loi, ce n'est pas illégal. Simplement...
Mais ce sont des méthodes que vous condamnez?
Oui. Jamais j'aurais fait ça.
Pourquoi?
Parce que je respecte les avocats, je respecte le droit de la défense. Vous savez, si, quand on dit les droits de la défense, c'est aussi les droits de la personne. Quand vous allez voir un avocat, vous avez le droit à la confidentialité totale. Ça fait partie des valeurs fondamentales auxquelles on ne doit pas toucher.
Merci Renaud Van Randbeck.
Je vous en prie, c'est
d'avoir
moi.
Été notre invité fil rouge jusqu'à 20h. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre qui s'appelle donc Mémoire d'un juge trop indépendant aux éditions Talendier. C'est absolument passionnant. Il y a plein d'autres affaires que vous évoquez à travers ces 350 pages de récits. Merci.
Merci.
Europe 1, Julien Bugier.
Dans quelques secondes, des archives d'Europe Soir. Et ce soir, on va revenir sur l'inauguration d'un géant des mers, le paquebot France. C'était en 62. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite du Club des idées d'Europe Soir à 19h52 et les archives, comme chaque soir à la même heure, quand le passé éclaire l'actualité, ça s'appelle le jour où.
Un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos.
Voilà.
Bonsoir Rémi Botsaron.
Bonsoir Julien.
Alors ce soir avec vous, on va prendre la mer. C'était il y a 58 ans exactement, 11 janvier 62, le jour où la France inaugure Le France, le plus grand bateau du monde à cette époque.
Et Le France, c'est 315 mètres de long, ces deux immenses cheminées rouges et noires à ailerons, la fierté des chantiers de l'Atlantique, lancé en fait en 1960 à Saint-Nazaire par le général de Gaulle, mais inauguré en 1962 au Havre par le Premier ministre Michel Debré. Mais avant l'inauguration, il y a eu des essais comme celui effectué le 7 janvier 1962 dans la Manche avec à son bord, le journaliste d'Europe numéro 1, Jacques Ourevitch, un peu perdu dans l'immense dédale du bateau.
Tout le bateau est jalonné de flèches. Et lorsque l'on commence à suivre une de ces flèches, on ne sait jamais où l'on arrive. Certains se sont trouvés ainsi dans une cheminée du France, d'autres se sont trouvés à fond de cale. Moi, je me suis perdu comme tout le monde, il n'est pas possible de ne pas se perdre. Hier soir, nous avons mis à peu près 1 heure pour retrouver notre cabine.
Voilà, difficile de trouver ses repères dans le France, mais Jacques Ourevitch remarque aussi autre chose, et il le dit ensuite dans son reportage, on ne se croirait pas dans un bateau, mais dans un hôtel de grand luxe.
Oui, parce que c'est bien le prestige que vise la France avec ce grand paquebot.
Oui, le prestige des grandes croisières transatlantiques qui sont pourtant déjà en déclin à l'époque. D'ailleurs, ce projet est contesté, certains y voient une erreur économique, mais Le France s'élance malgré tout pour sa première croisière le 20 janvier 62 avec à son bord plus de 2000 passagers, dont le journaliste d'Europe numéro 1, Charles Finalteri, qui souligne à son tour une petite difficulté liée à la capacité d'accueil du bateau.
Le plus difficile a été pour le moment de répartir dans les cabines les quelques 4000 valises arrivées par les trains spéciaux hier soir au Havre. Eh bien hier soir, en ce qui nous concerne, nous avons cherché les nôtres pendant près de 3 heures. Et ce matin encore, on recherche dans les coursives, dans les halls, et un de nos confrères de Radio Monte-Carlo n'a pas encore retrouvé la sienne. Il a dû se contenter de mon savon et de mon rasoir.
Voilà, pour les difficultés du départ, mais ensuite Le France est visiblement tout de même à la hauteur de sa promesse de prestige et de confort. Charles Finalteri raconte le premier dimanche à bord a commencé par la première messe.
C'est dans la salle de théâtre grillée or que l'office a été célébré par l'aumônier du bord, au premier rang des fidèles Madame de Gaulle et son fils le commandant Philippe de Gaulle, sur la scène devant le grand rideau de velours gris l'autel, et puis l'aumônier qui officie face aux fidèles. Tino Rossi y chante l'Ave Maria. Pendant ce temps, France poursuivait sa route à quelques 50 km à l'heure. La vie s'est maintenant emparée du navire. Elle s'est emparée de lui dans ses manifestations les plus diverses. Shopping dans les boutiques parisiennes du bord. Coiffeur pour ses dames. Cinéma, jeux de pont, salle d'audition de musique classique. Et la nuit dernière, c'était la première grande soirée, la soirée de bienvenue dans le grand salon. Robe de soirée, smoking, orchestre, danse, même le twist.
C'est même affectueux. France poursuit sa route.
Oui, effectivement. Et on l'a entendu, le twist est autorisé sur le France quand on danse, mais Yvonne de Gaulle refuse de danser. On l'apprend aussi dans ce reportage.
Alors où va-t-il le France lors de cette fameuse première croisière ?
Il va aux îles Canaries. Il y fait escale le 22 janvier 62. Et là, c'est un phénomène étonnant qu'observe le célèbre documentariste François Reichenbach, chargé de filmer ce premier voyage.
Ces gens, c'est le plus étonnant, qui ont payé certaines des sommes jusqu'à 800 000 francs pour cette traversée, se sont précipités pour acheter des cigarettes moins chères et vont faire tout leur possible, ça c'est un petit secret, pour que les douaniers ne le voient pas et ainsi économiser 500 anciens francs.
Heureusement que cette émission passera après le débarquement du France au Havre.
Voilà, peu importe le prestige, il y a des réflexes de voyageurs pour faire des économies, des voyageurs qui seront 600 000 au total à voyager sur le France jusqu'à son désarmement 12 ans plus tard, en 1974. C'est le choc pétrolier qui est fatal au plus long paquebot du monde.
Ne m'appelez plus jamais France, la France.
Ah oui, 12 ans seulement, c'est pas énorme. Hein. qu'il aurait pu durer plus longtemps.
S'il y avait dès le départ, c'est vrai que je disais, certains disaient qu'il aurait des difficultés économiques et le choc pétrolier lui a été fatal.
Merci Rémi, on voyage aujourd'hui avec vous sur les océans. Merci infiniment.
Europe 1, Julien Bugier.
19h56, restez avec nous dans un instant, le rappel de l'info avec Julien Pierce et puis Émilie Mazoyer, évidemment, pour la musique qui va recevoir Kassav pour célébrer les 40 ans du groupe. Déjà 40 ans, et oui, à tout de suite, Émilie pour la musique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, à partir de 18h. Merci infiniment de votre fidélité.